petite série d'études sur la crainte de Dieu. On avait considéré deux mémoires. Hein. La première fois, l'importance de la crainte de Dieu. On avait vu combien l'Écriture parle de ce thème et que les croyants même, ceux qui ont confiance, qui mettent leur confiance en Dieu, sont appelés des craignants Dieu. Hein. Donc, et puis que c'était un commandement de Dieu. Combien de bénédictions aussi sont attachées au fait de craindre Dieu, que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont qualifiés comme n'ayant pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. On se rappelle de tout cela. Et puis on avait, sans définir la crainte, mais après on avait considéré ce qu'est la crainte de Dieu. On avait parlé de la crainte frayeur et la crainte vénération un peu. Et que ces deux aspects étaient contenus dans l'Écriture quand il est question de la crainte de Dieu. Bien sûr, le non-croyant ne craint pas Dieu comme le croyant craint Dieu. Le croyant n'a pas peur de Dieu. Donc, c'est pas comme si, voilà, Dieu est quelqu'un dont il faut avoir peur et puis on se cache chaque fois qu'on l'entend, qu'on ouvre la parole. Mais il y a néanmoins une crainte respectueuse, un respect qui est plus que simplement un respect comme on respecte quelqu'un d'autre, hein, qui est plus quelque chose qui est tourné vers la vénération, le respect saint, mais avec une crainte de désobéir aussi, hein, et de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc une certaine appréhension, on pourrait dire, c'est pas peur, mais une certaine appréhension de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc on avait vu un petit peu cela. Et donc, ces deux aspects de la crainte. Alors, on veut continuer toujours un petit peu dans la définition de la crainte. Parce que, bon, parfois, l'Écriture dit, bon, le commencement de la, sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est ça, hein, je crois. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Bon, je l'ai dit à l'envers. Donc, on a des définitions comme cela. Mais parfois, pour avoir d'autres, un petit peu élargir le champ, la compréhension de la crainte de Dieu, il faut regarder comment il est utilisé dans d'autres contextes. Alors ce soir, j'aimerais juste qu'on regarde un petit peu la crainte de Dieu et la crainte des hommes. Alors parfois la Bible parle de la crainte des hommes, et puis parfois de la crainte de Dieu, et parfois les deux sont un peu juxtaposés. Alors je vous invite à lire un texte qui va être un petit peu le support, mais c'est pas, on va pas voir que celui-là. Luc chapitre 12, Luc dans l'évangile de Luc au chapitre 12, et puis nous allons lire, donc Luc chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 1. Luc chapitre 12 à partir du verset 1, il est dit « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, verset 4, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Alors, il y a ici deux craintes qui sont juxtaposées. On peut le voir très facilement. D'un côté, la crainte des hommes, et de l'autre, la crainte de Dieu. Et ce que Jésus dit ici, c'est que il faut rechercher une et rejeter l'autre. Et même plus que ce qu'il dit, c'est que rechercher une, je pense qu'on peut le voir en filigrane, c'est rejeter l'autre. Qui craint les hommes ne craint pas Dieu, et qui craint Dieu ne craint pas les hommes. On pourrait dire cela, hein, et on a résumé ce que Jésus dit ici. Alors, on peut voir plusieurs choses là ici à partir de ce passage. C'est que, premièrement, la crainte est un la crainte des hommes, la crainte que l'on a des hommes, est un sentiment qui est commun, je crois, à tous les hommes, hommes, femmes, à tous les êtres humains. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a naturellement, on a une certaine crainte des hommes. Il peut y avoir des gens qui disent, moi, j'ai peur de personne, mais en fait, c'est pas juste, hein. C'est pas vrai. On a une certaine crainte des hommes. Alors, on peut penser pour prouver cela à certains passages, quelques passages dans l'écriture. Alors là, je vais faire appel à votre aide. J'ai pas eu le temps de faire du papier aujourd'hui, donc vous devez noter à la main si vous voulez noter sur votre petit cahier. Je vous encourage à le faire. Et puis peut-être la prochaine fois, si je peux le mettre en forme, je vous redonnerai. Mais pensez on peut penser aux multiples exemples dans l'écriture où il est question de craindre les hommes. Peut-être comme ça, on peut essayer de faire intervenir notre mémoire. Est-ce que vous avez comme ça quelques passages ou quelques personnages ou quelques situations où la crainte des hommes est évoquée? Un peu. Moïse.
Quand il avait tué l'homme, et après quand il savait que Pharaon savait, il eut peur et il est parti.
Oui, d'accord, voilà. Donc on peut dire, il a fui par crainte, oui. Élie, le prophète, il a eu peur de Jézabel, il a fui, c'est vrai, j'ai pas pensé à tous ces exemples-là. Deux exemples auxquels je n'avais pas pensé, c'est bien, merci. David a fui devant Absalom, son fils, hein. Et puis il a fui Saül une bonne partie de sa vie aussi, hein. Quelqu'un a dit. Ah oui, il a eu peur de son peuple. De son peuple. Mais très bien, Saül aussi a eu la crainte des hommes, merci, oui. Quel est le premier homme qui a eu la crainte des hommes?
Adam.
Adam, il était le premier homme, donc il ne peut pas avoir peur des hommes. C'est vrai qu'il s'est caché, il a eu peur de Dieu, d'accord? Mais je savais que c'était une petite question piège, j'ai fait exprès, moi. C'était Caïn. Caïn, il a eu peur, hein. À quel moment, lorsque Dieu l'a chassé, et il a peur de la vengeance? Il a eu peur de la vengeance, et puis, il a dit, quiconque me rencontrera me tuera, hein. Voilà. Donc, y a des gens qui se demandent, mais de quel homme donc avait-il peur? Ben, ça c'est une autre question, hein. Qui avait-il comme population à cette époque? Bon. Mais en tout cas, Caïn, c'est lui, le premier dont on voit qu'il y a une crainte des hommes. Adam a eu peur, c'est vrai, mais il dit, à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc, il a eu peur à cause de la nouvelle situation dans laquelle il était. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Abraham et Isaac, ils ont eu peur, oui. Ils ont eu peur. Ils ont menti. Ils ont eu peur parce qu'ils avaient une belle femme, hein, et qu'ils avaient peur que, à cause de la beauté de leur femme, on les tue, d'accord. Donc ils ont dit, c'est ma sœur, hein, d'accord. Bon. On trouve ça en Genèse 12 et puis aussi en Genèse 20, je crois, hein, concernant Abraham. Donc, est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, est-ce que vous en avez? Là, on a dit essentiellement. Oui, à quel moment? Il a renié Christ, c'était de la crainte des hommes, hein, quand on lui a dit, mais tu étais avec eux. Il a dit, non, 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 je ne connais pas. Hein. Il a eu cette crainte des hommes, on pourrait dire, hein, qu'il soit aussi arrêté et puis qu'on le juge. Donc ça, c'est juste.
Est-ce que... Il a été Paul quand il s'est esquivé, il s'est mangé.
Oui, Donc il n'a pas eu peur de, il n'a pas eu peur de Paul précisément, mais il a eu peur des Juifs circoncis. Hein. Mais effectivement, Paul l'a, tu as raison, Paul l'a repris pour cela parce que il mangeait avec les païens. Et puis quand les Juifs sont arrivés, il s'est esquivé et puis il a fait comme si, voilà. Et puis donc il a très bien, oui. Donc il n'a pas, il a eu peur des circoncis. Donc ça, on trouve ça en Galates chapitre 2, très bien, versets 11 et 13. Est-ce qu'il y a oui, ah d'accord. Mais là, c'est une crainte plus une crainte de Dieu. De Dieu, je crois. Mais c'est vrai qu'il est question de la crainte de tous. Oh, il y a quelque chose qui est tombé là. Ah, oui, c'est le. Excusez-moi, si vous pouvez, je mets le pied dessus. Oui, il a eu une crainte, effectivement. Ils ont eu une crainte de peut-être même de se joindre aussi à cause de ce qui s'était passé. Ouais. Corneille, c'était un homme craignant Dieu, mais il a eu crainte des hommes. Pierre, Corneille, tu dis ?
Ouais, pas Corneille, le nom, enfin celui qui devait. Le premier interlocuteur de Paul.
Ah, Ananias.
Ananias.
Ouais.
Ananias.
D'accord. Pas Corneille. Ananias. Oh oui, Ananias. Ouais. Oui, il a eu peur d'y aller, c'est vrai. Il exprime une crainte. Peut-être qu'il avait, connaissant Paul, il s'est dit, il ne sait pas à quelle disposition cet homme avait, effectivement, ouais. Très bien. Alors, la Bible parle aussi de. Est-ce que l'apôtre Paul a eu peur ? Alors il y a un passage dans le livre des Actes où Dieu apparaît en songe à l'apôtre en vision à l'apôtre Paul et il lui dit ne crains pas avant son entrée dans Corinthe. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 18 il dit ne crains pas donc on peut regarder ça Actes 18 9 je crois hein, j'ai pas noté le texte, mais il dit, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, donc c'est le Seigneur Jésus qui lui apparaît en vision, ne crains point, parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. On peut supposer que il était craintif à l'idée d'entrer dans cette ville, et il dit plus tard dans 1 Corinthiens que quand je suis allé vers vous, c'était dans un grand tremblement, il le dit, hein, avec crainte et dans un grand tremblement. Hein. Et donc, on peut supposer qu'il avait une certaine appréhension, une certaine crainte, et Dieu, le Seigneur, l'encourage aussi hein, à ne pas avoir crainte, à ne pas avoir peur du fait qu'on puisse mettre la main sur lui. Personne ne mettra la main sur toi. Donc, on peut supposer que c'était une crainte des adversaires, hein, qu'il avait ici, des opposants à l'Évangile. Il avait déjà été battu, etc. Donc, il savait bien que le message de l'Évangile n'était pas reçu à bras ouverts. Et puis, j'ai noté aussi peut-être dans Jean chapitre 12, par exemple, hein, Jean chapitre 12, versets 42 et 43, la Bible dit qu'il y avait des chefs religieux qui avaient cru en Jésus, mais ils ne le disaient pas ouvertement. Hein. Jean chapitre 12, je le lis, il dit, « Cependant, même parmi les chefs, verset 42, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. » Donc, vous voyez, il y avait ici une espèce de crainte aussi des hommes. Et donc, quelque part, hein, la crainte des hommes, c'est quelque chose que l'on expérimente assez naturellement, qui est un sentiment que l'on peut avoir assez facilement. Donc, on le voit dans la Bible, mais dans la vie de tous les jours. Est-ce que, aujourd'hui, c'est la même chose? Est-ce que nous avons une crainte des hommes? Est-ce que nous pouvons avoir une crainte des hommes? Oui?
C'est l'une des choses les plus répandues.
Les plus répandues. D'accord. Très bien. Alors, donnez-moi des exemples. De quoi on a peur aujourd'hui? De son patron. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, moi, quand j'ai un travail, j'ai pas de patron au-dessus de moi, hein. Ouais. J'ai vu d'autres doigts levés, oui.
Quand on voit, par exemple, faire un exercice, un concours.
Oui.
On crée le, principalement le, comment ça s'appelle ça?
Celui qui apprend à conduire, là. Ah, le moniteur.
L'inspecteur,
oui. Oui, on craint dès qu'on a quelque chose, on craint un peu. Oui, c'est vrai, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que l'on craint encore aujourd'hui?
Le quand dira-t-on?
L'opinion publique. Voilà, l'opinion publique.
Les journalistes.
Voilà. Alors, voilà, ma question c'est ça. Qu'est-ce que l'on craint? Alors, on peut regarder d'après les exemples qu'on avait tout à l'heure, là, ici aussi, mais qu'est-ce que l'on craint? Donc, tu as donné quand même pas mal de réponses ici. Par exemple, Abraham, qu'est-ce qu'il avait craint quand il a dit « c'est ma sœur » ? Il a craint qu'on le tue. D'accord, très bien. Les chefs religieux, ils craignaient quoi ? Et d'être exclus de la synagogue. Donc, un certain, on pourrait dire, ouais, rejet, un certain standing qu'ils pouvaient avoir en étant acceptés dans la synagogue. Pierre avait peur de quoi? De la mort? Oui, in fine peut-être, mais la Bible dit qu'il avait peur des Juifs circoncis. Mais qu'est-ce qu'il pourrait craindre de leur part? Oui, pareil, hein. Oui, le fait d'être approuver aussi d'eux. On veut quelque part toujours l'approbation des autres, de tout le monde. Hein? On veut l'approbation d'une chose et de son contraire. Hein? On veut pas être rejeté. Hein? On pourrait dire que il craignait cela aussi. Saül, on a dit qu'il a craint. Il a craint pour ça, son rang, hein, son pouvoir. Il a craint que le peuple s'en aille et qu'il se retrouve tout seul hein, ici. Hein? Qu'est-ce que l'on craint? Donc, en général, tu l'as dit, on craint souvent ce que l'on va penser de nous. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On craint qu'ils nous méprisent. Qu'ils nous méprisent à cause de quoi? À cause de? À cause de la foi. À cause du fait que l'on dise que l'on croit en Jésus-Christ. D'accord? C'est plus facile de dire je crois en Dieu que de dire je crois en Jésus-Christ. Bien souvent, vous avez remarqué, hein? Des fois. Donc, parfois, on peut être tenté de dire comme ça. On a peur du mal que les gens peuvent nous faire. Est-ce que les hommes peuvent nous faire du mal? Oui? Alors, dans certains pays, je sais qu'on a peur de la sorcellerie. Des fois, est-ce que le chrétien doit craindre la sorcellerie qu'on peut lui faire? Une question difficile, voilà. Je vois des têtes qui disent comme ça, hein. On sait pas trop qu'est-ce qu'il faut penser, hein, ici. Hein? D'accord? On peut dire non. On peut dire oui, on peut dire non. Certains disent oui, certains disent non. On va voir tout à l'heure. Alors, et puis, on a peur des obstacles que les gens peuvent nous dresser. Par exemple, le fait de pouvoir avoir un poste ou quelque part ou je sais pas quelque chose comme ça, on peut penser que voilà, si je suis pas de telle manière ou telle manière, si je ne fais pas les choses de telle sorte, cet homme-là il a le pouvoir de me barrer ou cette femme-là a le pouvoir de me barrer la route. Hein. Donc il y a toutes sortes de craintes que l'on peut avoir, toutes sortes de situations dans lesquelles on peut avoir peur des hommes. En fait, on craint globalement deux choses. On craint ce que les hommes peuvent nous faire, d'après ce que Jésus dit ici, et puis, ou simplement ce qu'ils peuvent penser de nous. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou qu'est-ce qu'on peut me faire? Quelque part, on est au centre de cette crainte-là. Alors, Jésus dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alors, il souligne bien entendu que la crainte est quelque chose qui est extrêmement répandu. On l'a vu dans l'écriture, mais on le voit aussi dans notre propre vie. Mais quel est, ça c'est, après, notre premier point c'était, voilà, le sentiment commun à tous les hommes. Quelles sont les conséquences de la crainte des hommes? Quelles conséquences cela peut avoir? Est-ce que cela entraîne des conséquences? Ma première question, c'est pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples de ne pas craindre les hommes? Dans le contexte qu'on en a ici. On n'a pas lu tout le contexte, mais dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'il dit de ne pas craindre les hommes. On peut relire Luc, chapitre 12. Et si on lit le verset 3, il dit « C'est pourquoi tout ce que je vous aurai dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que je vous aurai dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » Quelque part, il dit que l'évangile doit être, je crois que c'est ça qu'il faut dire, proclamé ici. Et puis, au verset 6, il dit « Ne vantons pas deux passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. De même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » On continue. « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Donc si on s'arrête là, pourquoi est-ce que Jésus encourage ses disciples à ne pas craindre les hommes? Qu'est-ce que le fait de craindre les hommes engendrerait? Ce? C'est-à-dire, tu veux dire que ça... Ils auraient confiance, ils pourraient être en confiance en eux-mêmes? Oui, peut-être. Oui, c'est ça, la crainte de proclamer la parole de Dieu, la vérité. Parce qu'il dit après, quiconque me reniera devant, etc. Donc il dit, et celui, moi je me déclare. Donc voilà ce qui va se passer. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que les hommes peuvent vous faire, les menaces, parce qu'ils vont vous menacer. Lorsque vous allez vouloir proclamer l'évangile. Et si vous avez peur d'eux, eh bien, vous ne pourrez pas accomplir la mission que je vous confie. On pourrait dire ça aussi simplement que ça. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et donc, il explique, il leur dit, hein, verset 8 et verset 9, que la crainte peut vous paralyser et vous empêcher de rendre témoignage au Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir crainte. Elle peut entraîner une certaine honte aussi. Hein. Et parfois, et la Bible souligne cela. Luc, quelqu'un veut lire Luc chapitre 9 verset 26, peut-être pour nous faire avancer plus vite. Luc chapitre 9 verset 26. Voilà, donc on retient bien ça en esprit. 2 Timothée 1, verset 8. Quelqu'un a ça? 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Qu'est-ce que quelqu'un a? 2 Timothée 1, 8. Le premier qu'il a, il le lit. La première qu'il a, le lit. Voilà. Et vous voyez, ici, Paul souligne le fait que l'évangile et toutes les menaces qu'il entraîne avec lui, hein, ici, peut être peut générer une certaine crainte des hommes au point qu'on a honte. On peut avoir honte aussi, hein, parce qu'on a peur, hein. Et Paul dit à Timothée, n'aie pas honte ni de moi, ni de l'évangile, ni de moi, le prisonnier de Christ, parce que en plus d'avoir honte, d'avoir peur, on peut dire, mais voilà, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui est un fer de lance dans l'évangélisation, dans l'implantation de l'église, lui, il est en prison. Si lui, ça lui arrive, voilà, comment, à plus forte raison, ça peut aussi nous arriver à nous, et donc on a une certaine crainte, et puis une certaine honte d'être en prison, si on se dit, bon, ce sont les malfaiteurs qu'on met en prison. Donc être en prison pour sa foi, donc ça pouvait générer des craintes, des peurs, une certaine honte. Et Paul dit à Timothée, non, hein, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir honte. Et Verset 15, même chapitre 2 Timothée 1, 15 à 17. Tu veux continuer, si tu l'as toujours, Charity, verset 15 à 17. Voilà, merci. Et donc voilà, Paul donne ici l'exemple d'Onésiphore et d'autres personnes. Il montre deux comportements différents. Voilà. Un groupe de personnes qui a abandonné Paul par crainte, ils ont eu peur. Et puis Onésiphore qui vient lui à Rome, qui sait que Paul est emprisonné et qui surmonte tous les obstacles pour trouver un prisonnier. Quand tu étais prisonnier, c'était pas quelque chose de joyeux à cette époque. Aujourd'hui, ils ont la Wi-Fi, le téléphone presque, hein, et on est en train de trouver les lois pour que le confort soit maximum. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de confort comme ça dans les prisons, et donc c'était une honte que de dire je suis venu à Rome pour chercher un prisonnier, quoi, la compagnie d'un prisonnier. Il dit que Onésiphore, lui, il n'a pas eu cette crainte. Il a surmonté tous les obstacles, même s'il fallait payer de sa vie pour cela, mais il l'a fait. Et donc, on voit ici que l'évangile peut générer, à cause de la réaction des autres, des craintes. Alors, on peut relever dans les exemples qu'on a lus tout à l'heure concernant les craintes des hommes. Quelles sont les conséquences? Par exemple, pour Abraham, quelles conséquences ça a entraîné? Puisqu'on regarde les conséquences, la conséquence de la crainte qu'il a eue. La première conséquence, c'est quoi? Le mensonge. Il a menti. Mais est-ce que c'était la seule conséquence?
Il a perdu son témoignage.
Il a perdu son témoignage, oui. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses encore? Oui, sa confiance en Dieu, mais la deuxième fois qu'il a dit ça, qu'il a fait deux fois Abraham, la deuxième fois qu'il a dit ça, c'était avec Guérard, c'est ça, j'oublie le nom, Abimelech, oui, à Guérard avec Abimelech, oui, à qui il a dit, un pharaon à qui il a dit que c'était ma femme, et puis les hommes du roi, ils ont vu cette femme, elle était belle, ils ont vanté sa beauté auprès du roi, qu'il a prise, hein. Et puis on se souvient ce que Dieu a fait, hein, il est intervenu pour sortir Sarah de cette situation et empêcher qu'Abimélec ne pêche contre elle. Donc on voit qu'il a une conséquence, c'est qu'il a exposé sa femme au déshonneur aussi. D'accord? Tout ça parce qu'il a eu peur, il a eu la crainte qu'on le tue, et il a peut-être pas pensé à tout ça, mais ça a conduit. Si Dieu n'était pas intervenu, eh bien, ça serait mal terminé. Saül, quelle a été la conséquence, les conséquences pour Saül, de la crainte du peuple? Il a dit, j'ai vu que le peuple s'en allait, j'ai eu la crainte qu'il s'en aille, etc. Donc, quelle a été la conséquence? La désobéissance. Et quelle a été encore, in fine, la conséquence, enfin, de sa royauté? Donc le rejet de Dieu. C'est intéressant de voir que Saül avait peur du rejet du peuple quelque part, que le peuple ne s'en aille, qu'il soit rejeté par le peuple. Il a eu une crainte du peuple. Et puis, cette crainte du peuple l'a conduit dans une attitude qui a entraîné le rejet de Dieu. Il a eu peur du rejet du peuple finalement, des hommes, et il a connu le rejet de Dieu. Pour Pierre, quelle a été la conséquence par exemple? Si on réfléchit. Quand on a souligné tout à l'heure le fait que Pierre le second exemple qu'avait donné Hélène, je pense à cet exemple-là. Quand il s'est esquivé quand les circoncis sont arrivés pour faire semblant qu'il ne partageait pas de choses particulières avec les païens. Qu'est-ce que Et la Bible dit que c'est par, le texte dit que c'est par crainte des circoncis qu'il a agi ici. En Galates 2, c'est par crainte des circoncis qu'il a fait cela. Qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence? Il a été réprimandé par Paul, oui. Oui, voilà, il a quelque peu donné une mauvaise image de la nouvelle alliance, hein, on pourrait dire, hein, de l'évangile, puisque l'apôtre Paul dit qu'il voyait que la vérité de l'évangile était menacée. C'est pour ça qu'il est intervenu, on peut le dire comme ça. Mais c'est qu'il a été, il a usé de duplicité, hein, il y a eu ça. Et puis, comme on l'a dit, bon, moi j'ai noté qu'il a s'entraîné pour ceux qui pouvaient assister à cela un discrédit sur l'évangile aussi. Et Paul était obligé de le réprimander, d'intervenir pour cela. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'on voit que, avec tous ces exemples-là, que la crainte des hommes entraîne inévitablement des conséquences. Et empêche inévitablement. Et il y a un proverbe qui dit cela. Proverbe 29, verset 24 dit, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Et un piège, c'est fait pour tomber dedans et pour chuter. Donc, chaque fois que l'on craint les hommes, d'accord, eh bien, on pourrait dire qu'on se tend soi-même un piège pour l'étape d'après, péché. Parce qu'on va, être emporté dans des comportements ou des attitudes qui sont contraires à ce que Dieu veut. Alors, troisième point, donc on a vu un petit peu que c'est quelque chose qui est répandu, hein, on peut le voir, la crainte des hommes naturellement pour chacun d'entre nous, que cela a des conséquences. Et troisièmement, je voulais souligner ici quel remède Jésus donne contre la crainte des hommes. On va lire encore Luc chapitre 12 et au verset 4, il dit « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela, ne peuvent rien faire. » Est-ce qu'il s'arrête ici, Jésus? Non. Il va plus loin, il dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Ok. Et il ne dit pas qu'il ne faut jamais craindre. Il dit qu'il ne faut pas craindre les... Qui? Les hommes, mais que vous devez craindre Dieu. Et donc, il dit que l'antidote, on pourrait dire ça comme ça, hein, l'antidote de la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. Le remède à la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. On pourrait trouver sur Internet ou ailleurs dans les librairies beaucoup de livres qui nous expliquent comment surmonter notre crainte, nos appréhensions, hein, etc. Beaucoup de méthodes, tout ce qu'on veut, etc. Mais le seul antidote véritable à la crainte des hommes, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et cette pensée traverse l'Ancien Testament. On avait vu un texte un dimanche dans Ésaïe chapitre 8, qui est certainement le texte sous-jacent à ce que Jésus dit ici, où le prophète dit, où Dieu dit par le prophète la même chose. Hein. Il dit « Ne craignez pas ce que les autres craignent, n'appelez pas conspiration tout ce qu'on appelle conspiration ». Il dit, voici qui vous devez sanctifier, voici qui vous devez craindre. Et donc, c'est l'Éternel que l'on doit craindre. Et c'est la même chose que Jésus dit ici. Mais je voudrais qu'on lise Ésaïe 51, 12. On peut lire ça ensemble. Ésaïe 51, 12. Ésaïe 51. Et à partir du verset 12, nous lisons ceci, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. » Voilà, c'est exactement ce que Dieu dit ici à travers le prophète, hein, il dit au verset 12, « C'est moi qui console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel ?» On ne devrait pas avoir peur de l'homme mortel, mais pour cela, il faut avoir la crainte de Dieu. Et dans Jérémie, je vous lis, hein, dans Jérémie chapitre 1 et au verset 8, on lit aussi, Dieu parle à Jérémie, il dit « Ne crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Hein. » Voilà. Donc pareil, hein, il dit « Tu n'as pas à avoir crainte des hommes parce que je suis avec toi. » Donc ici, tu dois considérer cela. Et donc le Seigneur exhorte ici, quand on reprend le passage de Luc, à se détourner d'un principe qui consiste à avoir peur des hommes, pour se tourner, on pourrait dire, vers un autre principe qui consiste à craindre Dieu. Et c'est ce que nous avions vu en 1 Pierre, rappelez-vous, 1 Pierre chapitre 3, versets 13, 14, 15, où il était dit, aussi n'ayez d'eux aucune crainte, mais sanctifiez Christ dans vos cœurs. Si on ne veut pas avoir la crainte des hommes, il faut craindre Dieu dans notre vie. Alors, dernière question que je vous pose ici, sur quelle réalité cette crainte de Dieu est-elle fondée? Quand on lit ce que Jésus dit ici, hein, si on regarde un petit peu Luc chapitre 12, verset 4 et 5, ici, qu'est-ce que Jésus dit? On peut réfléchir ensemble, sur quoi est fondée cette crainte de Dieu? Quand il parle ici de craindre Dieu, qu'est-ce qu'on doit considérer? Qu'est-ce qu'il dit en... sur... Voilà, il attire nos yeux sur ce qui est à venir, on pourrait dire, le jugement final. Oui, c'est vrai, parce qu'il dit, il parle de ceux qui peuvent tuer le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire, comparé à Dieu qui peut tuer et le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, il parle de quelque chose... à venir, du jugement à venir, d'accord? Très bien. D'autres choses. Donc ça veut dire quoi? Quand il dit que craindre Dieu, on pourrait dire que cela veut dire qu'on doit apprendre à regarder vraiment à la fin des choses. Hein. Quoi d'autre? Oui. Oui, ça c'est au verset 3, c'est ça, ici, d'accord? Ce qui est caché dans les ténèbres sera mis à la lumière. Oui, de toute façon, ça c'est un principe. Il dit c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc vous ne devez pas avoir, ne devez pas craindre parce que la vérité elle est faite pour être révélée. Oui. Notre valeur aux yeux de Dieu. On voit ça au verset 6. Hein? Comment on pourrait dire cela? Verset 6, on pourrait le remplacer par un mot. Ne vantons pas de passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. De même, vos cheveux sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. De quoi est-ce que... Un seul mot pour parler de tout ça, ça pourrait être quoi? Un mot qu'on voit dans le catéchisme, dans les vérités fondamentales. La puissance de Dieu, ça va avec, mais surtout, je pensais à la providence, oui, de Dieu, qui prend soin de toute sa création. Et il dit, vous valez beaucoup plus que la providence de Dieu, mais la providence du Père. Ici, c'est pas écrit, mais dans le passage parallèle de Matthieu, c'est écrit, que c'est le Père céleste qui prend, votre Père qui prend soin d'eux. Donc ici, on pourrait dire que, Jésus parle de la providence de Dieu, pas simplement le fait qu'il est Dieu qui domine sur toutes choses, mais le fait qu'il est un père qui aime ses enfants et qui veut leur faire du bien. C'est ça qui est important à souligner ici. D'accord? Donc, Jésus demande à ses disciples de regarder à ces choses-là. Quoi d'autre? Est-ce que vous voyez encore d'autres choses? J'ai noté que Dieu est le seul qui a le pouvoir absolu sur le corps et sur l'âme. Et que, parce qu'il dit, c'est lui qui peut perdre le corps et l'âme. Et les hommes sont limités dans le pouvoir qu'ils peuvent avoir. D'accord? Il dit, ils peuvent faire une chose, et qui après cela ne peuvent rien faire. Donc, autrement dit, leur pouvoir est limité. non seulement leur pouvoir est limité, mais leur pouvoir ne dépend que de Dieu lui-même. Ils ne peuvent absolument rien faire que Dieu ne leur permet de faire. Donc c'est encourageant de savoir ça. Quand on a peur, quand on craint le patron ou n'importe quoi, le gouvernement ou des choses, il faut se rendre compte que aucun homme ne peut faire au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Et même dans ce qu'il fait, tout est contrôlé par Dieu et que l'enfant de Dieu n'a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Alors, on termine avec ces versets de Psaume 27, versets 1 à 3. Regardez un peu ce psaume. Psaume 27, versets 1 à 3. C'est le psaume de David. Et vous savez que David, lui, il a fui. On a dit, il y a eu beaucoup la crainte des hommes. Et lui, regardez ce qu'il écrit. David, chapitre 27. Psaume chapitre 27, versets 1 à 3. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors, est-ce que David a eu peur? David, une fois, il a crié, je périrai un jour par la main de Saül. Il était en fuite. Il a eu peur, il a craint. Alors, comment peut-il dire ici, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Je crois que c'est un témoignage qu'il donne ici que lorsqu'il a considéré l'Éternel comme sa lumière et son salut, et quand il a considéré Dieu comme le soutien de sa vie, il pouvait s'écrier, mais de qui puis-je avoir peur? Si Dieu est mon salut, de qui puis-je avoir peur? Si Dieu est mon soutien, de qui puis-je avoir crainte? Il écrit même, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, et ça il a connu littéralement cela, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est cette attitude-là que Dieu veut, que Jésus enseigne, je pense, à ses disciples et qu'il veut que chacun de nous ayons aussi. Et puis encore un passage en Proverbe 29, versets 25 et 26, où il dit « La crainte des hommes, je l'ai lu tout à l'heure en partie, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et donc ces deux passages-là du psaume et du proverbe montrent que la crainte de Dieu ici consiste vraiment à placer sa confiance en Dieu, en lui. La confiance dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, dans sa bonté, dans sa grandeur et dans toutes ces choses. Alors pour conclure, chers frères et sœurs, on pourrait dire ici que est-ce que la crainte de Dieu, je vous pose ça sous forme de question, est-ce que la crainte de Dieu est compatible avec la crainte des hommes? D'après ce que on voit ici, non. Craindre Dieu, cela veut dire aussi ne pas craindre les hommes, mais craindre les hommes, cela veut dire ne pas craindre Dieu. La crainte de Dieu, la crainte des hommes est incompatible. Je ne peux pas avoir les deux. En même temps, on ne peut pas profondément craindre Dieu et en même temps être dans une crainte des hommes. Parce qu'on a vu que la crainte des hommes conduit inévitablement à chuter, c'est un piège, et à pécher. Tandis que la crainte de Dieu, eh bien, conduit à l'obéissance et à la confiance en Dieu. Donc ces deux choses sont incompatibles. Et nous devons donc prier pour que Dieu nous donne, c'est lui, il nous donne son esprit qui est un esprit de crainte de l'Éternel, mais qu'on puisse le craindre véritablement, qu'on puisse placer vraiment notre confiance en lui, qu'on puisse avoir nos yeux fixés sur lui. Et ce que l'on doit faire pour craindre Dieu, d'après ce que nous lisons ici, c'est de faire passer dans notre pensée les réalités concernant Dieu. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, l'homme, voilà ce qu'il peut faire. Dieu, voilà ce qu'il peut faire. Voilà quelle est la puissance de Dieu. Voilà quel est le côté limité des hommes. Si on apprend à nous imprégner de la parole de Dieu et à méditer sur les réalités de qui est Dieu, eh bien cela nous aide à croître dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste donc à faire de sa parole le standard de notre vie. Et en ces jours que nous vivons, nous avons besoin vraiment de faire de la parole de Dieu les standards de notre vie. Beaucoup de lois sont votées, beaucoup de choses sont faites. D'accord? Il y a des gens qui militent pour des choses qui sont profondément contraires à la parole de Dieu et qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que l'on va se laisser, influencer par l'atmosphère ambiante, dire après tout, c'est la société qui évolue, etc. Ou est-ce que l'on va dire non, c'est la parole de Dieu qui est la vérité? Est-ce que l'on va craindre Dieu juste au point de dire non, mais voilà ce qu'est la parole de Dieu. Et ça, c'est péché, ça, c'est abomination contre Dieu. Nous avons dit dans le catéchisme que les saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu et l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. Il y a un petit oubli, hein, là. L'unique règle en matière de foi et d'obéissance. Donc, c'est ce qui constitue notre standard. Donc, la crainte de Dieu constitue à faire de la parole de Dieu le standard de notre vie. Et dans le verset qu'on a lu en Luc 9, 26, il était question, vous rappelez, Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte aussi de lui. Donc ici, il est question de garder, la crainte de Dieu consiste à garder aussi sa parole, la croire, de lui faire confiance et de faire de cette parole le standard de notre vie. On va s'arrêter là, que le Seigneur nous conduise et nous fasse grandir dans la crainte de son nom. On peut avoir quelques